Bonjour, Nouvelle-Ville-la-Prairie. Vous allez bien?
Oui.
Bon, enfin, une gang de réveillés. Ouais, la première gang, c'était pas... c'était correct, tu sais. Mais là, c'est le fun, là. J'étais avec les réveillés, là. Ça, c'est nice. C'est une joie d'être avec vous. Dites-le pas à ceux de la première réunion, hein. Ils vont recevoir des courriels. C'est une joie d'être avec vous ce matin et de continuer dans la thématique qui est présente, dans la série présente, de la fin des temps et moi. Et parfois, l'idée de la fin des temps peut produire deux émotions principales. Premièrement, l'émotion de la crainte, hein, de la peur, de l'anxiété devant tout l'inconnu de ce qui nous entoure. Mais également le sentiment de solitude, la fragilité de l'existence humaine. Et on vit dans des temps qui sont périlleux et qui sont incertains, même inquiétants de nos jours, où ces deux émotions vont surgir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je pensais que ça a fini, là. Hein? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Il y en a un autre variant. Je pensais que c'était fini pour le temps des fêtes, hein? Et ces sentiments qui vont surgir peuvent s'accroître et s'amplifier avec les situations. Mais récemment, j'ai été consolé, j'ai été rassuré en lisant le texte dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20, où Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Jésus nous a promis que nous ne serions jamais seuls. Que même à la fin des temps, il serait là, que je ne suis pas seul. Parfois, la solitude, ça peut être une émotion qui est lourde, qui est souffrante. La définition de la solitude, c'est se sentir seul et d'en souffrir. Se sentir seul et d'en souffrir. Donc, ce n'est pas juste un état d'être seul, mais c'est également un sentiment qui est douloureux et qui est souffrant. Mais il y a une grande différence ici entre choisir la solitude et subir la solitude. Une grande différence. Récemment, il y a une dame qui s'appelle Suzanne Cain qui a écrit un livre qui s'appelle « Quiet », tranquille, silence, où elle partage son histoire à elle d'une introvertie profonde, où elle prenait plaisir à se retirer dans sa chambre puis lire, faire la lecture. Et ses parents constamment la poussaient, « Non, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles jouer avec des amis. » Elle dit, « Moi, ça ne m'intéressait pas de jouer avec des amis, je t'habille avec mes livres, j'aimais mieux me retirer. » À tel point qu'à un moment donné, son père, dans un bon motif, lui a enlevé tous ses livres pour la forcer à aller jouer dehors. Et alors qu'elle allait jouer dehors, elle allait voir ses amis, puis elle leur donnait des sous qu'elle avait économisés, puis elle dit, « Peux-tu aller m'acheter un livre? » Et là, elle se trouvait un coin tranquille, puis elle allait lire son livre, alors que ses parents pensaient que était avec des amis. Tu vois, elle choisissait d'être seule. C.S. Lewis, alors qu'il a perdu sa mère quand il avait 5 ou 6 ans, et c'était très troublant, il raconte dans son histoire, dans son autobiographie, qu'il préférait, lui, de loin, pouvoir aller à la bibliothèque durant la récréation que jouer au ballon dans la cour. Il dit, j'avais l'impression de perdre mon temps à courir après un ballon quand il y avait tellement de livres à lire. Il choisissait d'être seul. Tu vois, il y a quelque chose que peu de gens connaissent de moi, c'est que je suis profondément un solitaire. Et il y a quelques semaines, j'ai dit à mon épouse, ça l'a découragé, mais j'ai dit à mon épouse, tu sais, je m'ennuie du confinement. On était-tu bien, hein? Tu sais, tout le monde chez eux. On va à peur. Ah, les voisins, tout le monde chez eux, pas de party, pas rien, tout le monde chez eux, là, hein, tranquille. C'est correct, ça. Puis moi, j'ai mon cabinet, puis étant donné que j'ai un permis de l'ordre des psychologues, moi, je n'étais pas soumis au couvre-feu. Fait que je pouvais faire des rencontres, des fois, je les faisais par Internet, puis je pouvais sortir de mon cabinet, des fois, il était à 22 heures, je quittais le bureau, puis je m'en allais chez moi. Ah, c'était merveilleux. La route à moi tout seul. J'avais le goût juste de zigzaguer dans chaque voie, juste pour... Mais je me suis dit, d'un coup, qu'une police qui me voit, il va dire, « Oh, lui, il a fêté un peu trop, là. On va aller l'arrêter. » C'est différent de choisir la solitude que de la subir. Choisir de se louer un chalet dans la campagne, le bord d'un lac pour aller passer quelques temps de repos, de paix, de calme, et de subir un confinement alors que tu es seul à la maison, c'est très différent. Mais pas juste en pandémie que tu peux vivre la solitude. Tu peux subir la solitude par le rejet. Tu peux subir la solitude par l'abandon, d'être oublié, d'être mis de côté. Peut-être que tu vis la solitude parce que tu as perdu ton conjoint ou ta conjointe et tu vis ton deuil et là tu es seul dans la maison et la maison semble devenir tellement grande alors que tu es seul dedans. Peut-être que tu as tes parents et tes enfants ont quitté. Et là tu te retrouves, le nid est vide. Tout à coup la maison est grande, elle est silencieuse. Ton horaire a beaucoup de place. Plus besoin de courir pour les cours de piano, la game de soccer, la pratique de guitare, hein, le spectacle. Et là, on se sent vide. On peut se sentir seul. Parfois, ça peut être causé par un déménagement. Je pense à des nouveaux arrivants qui sont arrivés dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle température pour plusieurs. Wow! J'ai quelqu'un qui est arrivé de l'Amérique du Sud qui me disait « Ouf! » Ils sont arrivés, le couple est arrivé pour un rendez-vous avec le gros manteau d'hiver. Et puis, je les regardais, je leur souriais, j'avais un petit chandail à manches courtes. Et eux me regardaient. Ça va? C'est froid, hein? Oui. Toute une nouvelle culture. Et la solitude de dire, on est seul ici. On n'a plus personne. On n'a plus de famille. On n'a plus d'amis, on a laissé tout derrière, on arrive ici, on est complètement seul. Des épreuves qu'on a pu vivre, que parfois les gens vont s'éloigner de nous, alors qu'on avait terriblement besoin d'être accompagnés, les gens se sont éloignés parce qu'on n'aime pas s'associer à la souffrance de quelqu'un. Sur Wikipédia, il y a plus de 300 chansons populaires que le thème, c'est la solitude. C'est ça le thème de la chanson, plus de 300. Même Elvis chantait sur la solitude. « Are you lonesome? » Bon, il chantait mieux que ça, là, mais à peine. Le chant de la solitude. Victor Hugo a dit, l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. Pour Victor Hugo, tu voulais décrire l'enfer? Solitude. C'est ça l'enfer. On est seul. Mais attention, je peux ressentir la solitude même au milieu d'une foule. Je peux être au milieu d'une foule et sentir la solitude. Le philosophe Henri David Thoreau a écrit « Une ville, c'est un endroit où des centaines de personnes sont seules, ensemble. » Et les villes étaient moins grosses qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire « où des dizaines de milliers de personnes sont seules, ensemble. » C'est encore plus vrai dans notre société moderne, où chacun s'isole l'un de l'autre. Souvent, on peut entendre des reportages où il est arrivé un crime, il est arrivé une crise, il est arrivé une tragédie dans une maison. Et tu vois les journalistes qui vont voir les voisins pour avoir des entrevues, puis ils disent « Bien, on ne se connaissait pas, on ne savait pas qu'il était comme ça, on ne leur parlait pas, des fois on leur envoyait la main. » Tellement on est barré dans nos maisons et il n'y a pas cet échange-là que tu pouvais avoir dans un village où tout le monde se connaissait. Donc, la solitude, ce n'est pas juste un état d'être seul, mais c'est un sentiment douloureux et souffrant qui vient de cet état d'être seul. Et c'est même Dieu qui a dit, dès le début de la création, que ce n'est pas bon pour l'homme, ce n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Alors, pourquoi nous donner cette capacité émotionnelle de ressentir la solitude? Parce que, comme toutes les émotions que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné la capacité de vivre les émotions. Vous savez, Dieu aurait pu créer tout l'univers en noir et blanc, puis on ne l'aurait jamais su. On n'aurait jamais su la différence. C'est noir et blanc, puis ça aurait été grisâtre, et puis c'est correct. Mais Dieu a choisi de mettre de la couleur. C'est pas mal plus beau. L'être humain aurait pu être créé sans émotions. Il aurait été gris. On ne l'aurait pas su. Mais Dieu, qui est émotionnel, qui nous a créés à son image, nous a donné des émotions parce que la vie est beaucoup plus belle parce qu'on a des émotions. C'est ce qui fait que l'humain est beau, toutes les émotions que l'humain peut dégager, peut vivre. Et j'oublie parfois que Dieu est un Dieu émotionnel. Moi, je vous invite à lire les évangiles, à aller regarder, faites comme moi, là. Hein, comme psychothérapeute, je regarde Jésus comme un psychothérapeute. Il est fascinant parce qu'il vit pleinement ses émotions. Il les accueille, il les vit, il les exprime. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous aurait donné cette capacité de ressentir la souffrance quand je suis seul? C'est cette souffrance qui, bien souvent, me pousse à vouloir entrer en relation avec les autres. Quand Dieu constate la solitude d'Adam, il a créé Ève. Et c'est l'idée, c'est le plan de Dieu pour le mariage, pour la famille, pour l'Église, que c'est dans cet environnement-là que notre besoin profond de combler notre solitude, d'entrer en relation, devrait être comblé. L'objectif de la famille biologique et spirituelle, de rencontrer ce besoin relationnel, de combler notre solitude et notre besoin d'appartenance dans des relations personnelles qui vont être riches et qui vont être profondes. Et oui, dans le mariage, mais pas nécessairement et obligatoirement dans le mariage. Pour certains, dans le célibat, ils vont entrer dans des relations profondes, des relations riches pour rencontrer ce besoin-là, des amitiés qui sont profondes. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas que c'est riche, que c'est sain, que c'est réconfortant et comblant. Vous savez, vous pouvez être marié et ressentir la solitude. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir, puis elle me disait, je souffrais tellement de solitude dans mon célibat que je me suis marié avec quelqu'un juste pour ne plus être seul. Et elle dit, là, j'ai découvert une nouvelle solitude qui est encore plus profonde. C'est la solitude quand tu es marié avec quelqu'un, puis tu te sens seul. Tu te sens seul. Une solitude qui peut se sentir. Ce n'est pas automatique non plus dans nos familles biologiques. Automatiquement, parce qu'on est de la même famille, on va avoir des relations saines, des relations riches, des relations satisfaisantes. Ce n'est pas automatique du tout. Récemment, je lisais deux familles de multimillionnaires où ils étaient en cours de justice parce que les enfants poursuivaient leur père pour aller chercher une part de leur héritage, puis les millions qui leur venaient. Puis là, la chicane était prise dans la famille, divisée devant le juge pour se chicaner. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir des conflits dans la famille. Amen. Vivre des frictions, vivre du rejet, vivre de l'abandon, le sentiment de non-appartenance dans notre famille. Pour certains ici, c'était peut-être une très belle excuse depuis 2 ans de pouvoir dire, ben, je ne peux pas aller au party de Noël, hein, COVID, si tu veux, COVID. Mais tu vois, c'est vrai dans plusieurs familles, c'est pas automatique que ça va être riche, que ça va être bon. C'est là que je peux vivre la douleur. Et c'est là, dans l'intention de Dieu, que Dieu crée l'Église pour venir prendre la relève. En d'autres mots, que dans l'Église, je suis censé trouver une famille. De trouver des frères et des sœurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le fait dans notre langage chrétien évangélique. Bonjour frère, bonjour sœur, bonjour frère, bonjour sœur. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu penses de cette personne-là comme un frère ou que tu penses de cette personne-là comme une sœur? Mais c'est ça le sens de l'Église, c'est ça le but de l'Église pour Dieu, de pouvoir trouver un sentiment d'appartenance dans des relations fraternelles qui vont être saines et qui vont être riches. L'idée d'être une famille. Mais comme pour la famille biologique, la famille spirituelle n'atteint pas toujours l'objectif non plus. Là aussi, ça peut être un lieu de rejet et d'abandon, un lieu de jugement. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Paul l'a vécu comme ceci. Dans 2 Timothée, il écrit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Tu vois, ça ne change pas l'idée du but de Dieu pour l'Église. Même si Paul l'a vécu, même si toi tu l'as vécu, ça ne change pas le but et le point, l'objectif de l'Église pour Dieu. Et nous avons besoin d'y revenir en 2021. Nous avons besoin de revenir en prenant conscience que nous sommes tous imparfaits et que nous sommes tous blessés. Quelqu'un disait, c'est une stratégie quand même étrange de la part de Dieu de prendre une gang de blessés pour amener la guérison. De prendre des gens blessés et imparfaits pour amener la guérison. Et j'ai besoin de revenir à ce sens-là et de demander l'aide de Dieu pour atteindre l'objectif. Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux, que je puisse voir mon prochain comme toi, tu le vois. Mais la réalité de cette imperfection humaine nous ramène à notre source ultime pour combler notre solitude. Voici comment Jésus l'a exprimé pour la solitude que lui vivait dans Jean chapitre 16. « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. » Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Peux-tu t'imaginer un instant le matin de Pâques? Hein? La pierre est roulée devant le tombeau. Les gardes romains tombent dans et s'évanouissent sous un choc nerveux. La pierre est roulée et Jésus sort du tombeau. Et il n'y a pas personne. Peux-tu t'imaginer un instant? Pourtant, je leur avais dit, dans 3 jours, je vais ressusciter. Ils ne sont pas là. Non, Jésus est tout seul. Mais je sais que je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Tu vois, c'est ce qui m'amène, cette soif profonde, existentielle de toute mon être. C'est en Dieu que je vais la rencontrer. Il n'y a aucun humain sur la terre qui va rencontrer ton besoin ultime d'être aimé et de ne pas te sentir seul. Il n'y a aucun humain qui va le faire. Ne cherche pas un homme qui va te l'amener dans ta vie. Ne cherche pas une femme qui va t'amener ça. Ça n'arrivera pas. Parce que notre soif ultime, elle est tellement profonde que seul Dieu qui peut la rencontrer et seul Dieu veut la rencontrer. Viktor Frankl, qui est un psychiatre juif, qui a survécu au camp de concentration où son épouse a été tuée, toute sa famille a été tuée, et il a survécu. Et il écrivait dans son livre « In Search of Significance », à la recherche de la signification, je pense que c'est le titre en français. Et il disait, l'être humain souffre d'une dépression existentielle profonde quand il prend conscience qu'il vient au monde seul et qu'il va mourir seul. Qu'il y a quelque chose de complètement solitaire dans notre naissance et dans notre mort. Et il disait, la seule façon de survivre, de surmonter cette dépression, c'est Dieu. Et de réaliser que Dieu est là à ma naissance et que Dieu est là à ma mort, que jamais je ne suis seul. Et tu vois, c'est pour ça qu'il s'est éloigné de Freud, parce qu'il était un disciple de Freud. Il s'est chicané avec Freud, parce qu'il disait, Freud, t'as oublié Dieu dans ton affaire. Freud dit, on n'a pas de place, on n'a pas besoin de Dieu. Non, t'as besoin de Dieu. Sinon, c'est vide. La vie est vide. Dépression existentielle de réaliser que je suis seul, mais que je ne suis pas seul. Tu vois, le sentiment de solitude m'alerte au fait qu'il me manque quelque chose, que ce n'est pas bon d'être seul. Et ma capacité de ressentir cette douleur dans toute mon être me pousse ultimement à entrer en relation avec Dieu. Qu'il y a quelque chose en moi qui crie après quelque chose pour dire « j'ai besoin, là, je suis seul ». Tu vois, notre Dieu est un Dieu relationnel. Père, Fils, Saint-Esprit. Le 3 en 1. Les 3 ayant une communion parfaite. Notre Dieu est un Dieu de relation, de communion. Et parce que j'ai été créé à son image, ma soif la plus profonde, c'est d'être abreuvé à la source d'amour infini de notre Dieu. Tu vois, c'est beaucoup plus loin que juste être en relation avec Dieu. Trop souvent, on se satisfait d'être en relation avec Dieu. Je connais Dieu. Mais nous sommes appelés à être en communion avec Dieu. C'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas juste une relation. Lorsque je donne mon cours à l'ITF sur la relation d'aide, le premier cours, je pose une question dans la classe. Qui ici connaît Jésus? Toutes les mains se lèvent. Avec fierté. Je connais Jésus. Et là, je les regarde et je leur dis ceci. Alors, mon défi, j'ai 15 semaines à 3 heures par semaine. Mon défi, c'est qu'à la fin de la session, quand je vais poser la question, qui ici connaît Jésus, il n'y a aucune main qui va se lever. Et là, ça panique un peu dans la classe. C'est quoi, il n'est pas chrétien, lui? C'est quoi, lui? C'est quoi son affaire? Non, parce que tu vois, quand tu penses que tu connais Jésus, t'arrêtes d'essayer de le découvrir encore plus. J'aimerais te suggérer que tu ne connais pas Jésus comme tu peux le découvrir et le connaître. Ça prend une vie pour connaître Jésus, et même ça, c'est passé, ça va nous prendre l'éternité. D'entrer en communion avec Dieu, pas juste le connaître, pas juste être une relation. Le psalmiste, dans le psaume 42, l'a écrit comme ceci, « Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme soupire après toi. Et quand je lisais le texte, je me disais, mais c'est quand la dernière fois que j'ai soupiré après Dieu? C'est quand la dernière fois que mon âme soupirait après Dieu? Que mon vide existentiel, mon vide, ma souffrance, ma douleur intérieure m'a amené à dire, « Ô Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau, je soupire après toi. » Comme Jacob qui s'est battu avec Dieu et qui a dit, « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne me béniras pas. » On a besoin de prier et de revenir à cette soif au lieu de tenter de l'assouvir dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de relations, dans toutes sortes de personnes. La réalité est, je ne suis jamais seul. Jamais seul. Et mon sentiment de solitude peut être comblé dans ma communion avec Dieu, dans son amour infini, un amour qui me remplit et un amour qui me donne le goût d'aimer. C'est comme si cet amour-là me remplit et me donne la force et le courage d'aimer mon prochain comme moi-même. Il y avait une journaliste qui avait fait un reportage sur la mère Teresa, alors qu'elle était aux Indes et qu'elle faisait son ministère. Et la journaliste était complètement époustouflée de voir tout ce qu'elle faisait et toute la communauté religieuse qui accompagnait la mère Teresa dans leur œuvre pour les lépreux de la ville. Et la journaliste a dit, « Mais où est-ce que vous prenez toute cette énergie-là? Où est-ce que vous prenez l'énergie pour faire ça? » Et la mère Teresa a dit, bien, demain matin, à 4h30, viens à la cafétéria. C'est OK, 4h30. Alors, la journaliste s'est levée, elle s'est rendue en bas, et là, de trouver toute la communauté qui faisait le ministère, incluant la mère Teresa, qu'ils étaient en prière. De 4h30 à 8h30, ils étaient en prière. Et là, la mère Teresa a regardé la journaliste, elle a dit, là, maintenant, tu sais notre secret. Elle a dit, tu vois, de 4h30 à 8h30, on vient et on se remplit de l'amour de Dieu. Et après, on passe la journée à déverser ce qu'on a reçu. Et le lendemain matin, on recommence. Parce que je viens devant Dieu, que je rentre dans cette communion avec Dieu, que je reçois cet amour infini, que je ne suis pas seul, il va me donner la force d'aimer mon prochain. Mais cette présence, cette assurance et cette présence, cet amour, me donne aussi la force et le courage d'affronter mes craintes et mes peurs. Parce que c'est souvent quand je suis seul que mes peurs et mes craintes vont prendre une place exponentielle. Peut-être la peur de vieillir seul, peur de mourir seul. Dans la première vague de la pandémie, on a été fâchés, on a été outrés de voir des milliers de personnes âgées décédées dans des CHSLD. Et qui mourait seul, qui mourait seul. On était choqués par ça. On était outrés, avec raison. Mais il y avait quelque chose de très hypocrite dans notre réaction. Parce que si vous côtoyez des gens qui travaillent dans ces lieux-là, ou si j'avais déjà été dans ces lieux-là, 90 % des personnes âgées dans les CHSLD n'ont jamais de visite. Ils n'ont jamais de visite. Si tu as déjà eu le privilège de visiter une résidence pour personnes âgées, tu es mieux de ne pas être pressé. Je me souviens, il y a longtemps, on avait décidé d'organiser un petit spectacle dans une résidence pour personnes âgées, gratuit. Temps de Noël, des chants de Noël, des chants traditionnels. Puis moi et l'autre personne qui était le chanteur, on s'est dit, on va faire du porte-à-porte à l'intérieur du centre de personnes âgées. OK? OK, tu prends ce corridor-là, je prends ce corridor-là, puis on se rejoint à 19h, c'est chaud, on cogne à toutes les portes, puis on invite tout le monde. À 19h, il n'y avait pas personne dans la salle. Parce que toutes les portes qu'on cognait, on nous faisait rentrer. Puis là, on nous placotait ça. Hein? Puis là, on a vu des collections de petites choses en porcelaine, des petits animaux en porcelaine. Vous savez, dans le thé salada, qui se souviennent de ça, d'acheter, hein? Il y avait un petit bonhomme. Et j'ai visité ça, moi. Hein? Et je me souviens d'une dame, elle avait tellement touché mon cœur, je rentre, puis elle a un arbre généalogique. C'est tout le beurre de la cuisine. C'est un arbre généalogique avec des photos de toutes. Elle dit, ça, c'est toute ma famille. Ça prenait le mur, là. Les enfants, les petits-enfants, les conjoints. Ça prenait le mur au complet. Je dis, wow! Oh, je dis que vous avez une belle, grande famille. Elle dit, oui, hein? Elle dit, cette valeur, je ne les vois jamais, mais au moins, je les ai sur le mur. Peur d'être seul. Peur de mourir seul. Tu vois, la pandémie a ébranlé plusieurs fondements dans nos vies. Des choses qu'on prenait pour acquis et des choses qui nous donnaient un sentiment de sécurité comme si on était en charge, on était en contrôle. Sauf que ces fondements n'étaient pas basés sur la vérité. Tu vois, la pandémie a mis à jour l'illusion de notre sécurité ici-bas. Tu te souviens de janvier 2020? Moi, je m'en souviens. Oh! 2020. Hein? Dans les médias sociaux, on l'écrivait comment? VIN, VIN. Wouh! Année de party 2020! Ça n'a pas duré longtemps. Hein? Mais c'était correct, parce qu'au début, là, ça va bien aller. 2 ans plus tard, là, hein? Mais tous nos sentiments de sécurité, tous nos sentiments de source pour apaiser nos craintes ont été mis à jour. Ce n'était pas des bons fondements. Parce que devant toutes mes craintes et devant toutes mes peurs, qui sont des sentiments qui sont légitimes, devant l'imprévu et l'inconnu, c'est légitime que j'aie peur. C'est légitime que j'aie de l'anxiété. Ce n'est pas un manque de foi d'avoir de l'anxiété quand les choses ne vont pas bien devant toi. C'est juste d'être humain. C'est juste d'être humain que d'avoir de l'anxiété, d'avoir de l'angoisse. Tu fais face à une situation qui est angoissante. Mais c'est normal que tu aies de l'angoisse. C'est humain. Jésus a été angoissé. Angoissé à tel point que des grumeaux de sang sortaient de son visage. Parce qu'il savait, il voyait, c'était la croix qui s'en venait le lendemain. Et ces sentiments étaient tout à fait légitimes. Fait que des fois, j'ai le droit d'avoir de la peur, j'ai le droit d'être de l'anxiété. Mais au milieu de cela, devant la peur, devant la crainte, alors que je peux ressentir l'absence de réponse à mes requêtes, puis mes tentatives de comprendre les temps dans lesquels je vis, mes requêtes qui vont à Dieu, puis j'ai l'impression que ça ne monte pas plus haut que le plafond, puis j'ai l'impression que je suis tout seul. C'est rassurant de réaliser et de savoir que je ne suis pas seul. Que Jésus est là. Que Jésus est là. Qui n'est jamais pris par une pandémie. Jésus n'est pas tombé en bas de son trône. Mais qu'est-ce qui se passe? Que Jésus n'est jamais confiné. Vous savez, ils peuvent nous confiner puis nous embarrer dans nos maisons. Ça n'empêchera jamais Jésus de venir. Parce que lui, il n'est pas confiné. Il est toujours accessible. Il est toujours là. Il est toujours avec moi. et de prendre conscience que c'est cette présence qui va calmer mes craintes. Mes craintes sont légitimes, mais je sais que je ne suis pas seul. Tu vois, Jésus avait amené Pierre, Jean et Jacques avec lui pour ne pas être seul. Priez avec moi, les gars, priez avec moi, là. Je suis troublé, là. Je suis anxieux, priez avec moi, je ne veux pas être seul, là. Ils ont tombé endormis. OK, c'était... Hey, les gars, vous l'avez manqué, celle-là. Là. Celle-là, vous l'avez échappée. Mais Jésus trouvait sa paix où? Savoir que le Père était avec lui. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père. Je sais que je ne suis pas tout ça. Je peux affronter mes craintes et mes peurs. Il y a quelques années de cela, alors que j'étais pasteur, j'avais besoin d'aller visiter une dame à l'hôpital. Et ça n'a jamais été mon activité préférée d'être pasteur. OK? Alors, si jamais vous tombez malade, bonne chance. Et j'aime pas ça. Hein? Ça sent drôle. Les gens ne sont pas tout à fait bien peignés. Hein? Ils ne sont pas le meilleur. Hein? Ils ne sont pas le meilleur, pas en tout. Et puis, j'aime pas ça. Mais tu sais, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et il y a une dame que j'ai besoin de visiter, puis là, je me dis, OK, comment je vais l'encourager, cette dame-là, une dame âgée, problèmes sérieux. Et puis, je vais la voir. Tu sais, des fois, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, puis tu te rends compte que c'est la personne qui te fait du bien. Et je vais la voir, puis je lui dis, ça va? Oui. Je dis, le soir, est-ce que ça va le soir? Parce que moi, j'ai été hospitalisé. À l'adolescence, j'ai eu une opération, puis j'ai été hospitalisé pendant plusieurs jours. Et puis, je me souvenais que le soir, quand on fermait toutes les lumières dans les chambres, et le seul son que tu entends, c'est toutes les machines qui font toutes sortes de bruits. Puis des fois, un cri de douleur ou un cri de souffrance. Et, puis et tu te sens complètement seul, mais seul au monde. Et je me souvenais de ce sentiment-là. Et je dis, ça, est-ce que ça va? Vous savez, le soir, là, quand ils ferment les lumières, là, tu dis, ben oui, ça va très bien. OK, c'est quoi la médication qu'ils vous donnent au juste? L'aide du bon stock? Elle me dit, ben non. Puis c'est comme, tu sais, des fois, c'est comme, ben non, le jeune, ne comprend rien. Elle dit, quand je mets ma tête sur l'oreiller, là, elle dit, je vois Jésus qui vient mettre sa tête sur l'oreiller, là, puis là, on parle ensemble. Là. Elle dit, je dors très bien. Présence de Jésus dans son lit d'hôpital calmait ses craintes et son angoisse parce qu'elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle savait que sa vie est entre les mains de Dieu. Le psalmiste le dit comme ceci dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous avez vu que ce n'est pas marqué ici, hein? Marqué quand? La réalité de la vie ici-bas, c'est qu'on va avoir à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. Je ne suis jamais seul. Ésaïe a dit dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et le verset qui suit va dire que Dieu va nous défendre auprès de ceux qui nous attaquent. Dieu est là avec moi. Je n'ai pas à craindre. Il est là avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, « Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Que jamais, jamais, jamais est-ce que Dieu va m'abandonner. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire, « Dieu va se tanner à un moment donné. » Parce que j'ai l'impression que je viens tout le temps confesser les mêmes affaires. Il doit-tu être tanné? Hein, il y a un moment donné, là, Dieu va me dire, hey, « Lui, là, je ne suis plus capable. Plus capable. Il n'a rien compris. Ça fait que des années que je lui parle, puis il ne comprend pas, il ne m'écoute pas. Il se met dans le trouble. Après ça, il chiale. Puis là, plus capable. Lui, là, fini. Hein? » Des fois, même nous autres, on se tombe sur les nerfs. Vous avez déjà remarqué, ça vous est déjà arrivé, hein? À un moment donné, mon épouse, elle me dit, « Daniel, pourquoi tu ne prends pas quelques jours tout seul en quelque part? Tu sais, va-t'en, là. » J'ai dit, je peux pas, moi-même, je me tombe sur les nerfs. Moi, être avec moi là-bas, là, je peux pas, là. Tannée de moi-même. Combien c'est bon de savoir que parce que je suis son enfant, qui m'aime d'un amour inconditionnel, jamais il va me délaisser. jamais il va m'abandonner. Il va toujours être là pour moi. Voici comment Paul l'a écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Sa présence qui calme mes craintes. Alors que les musiciens se joindraient à moi. Peut-être que tu as un sentiment de solitude ce matin. Sentiment douloureux, parce que ce n'est pas une solitude que tu as choisie, là. Tu la vis. Et peut-être que tu vois venir le temps des fêtes avec angoisse, avec tu résistes, parce que tu dis, je vois le temps des fêtes, et c'est tellement dur pour moi de me retrouver seul pendant la période de Noël. D'être seul malgré peut-être une famille biologique, peut-être une famille spirituelle. Peut-être que tu as été blessé, tu as été déçu par des relations interpersonnelles. Est-ce que je peux t'inviter à tenter encore une fois? De faire un pas, de faire une tentative, d'entrer en relation, de demander l'aide à Dieu pour t'aider à entrer en relation. Pas aveuglément, avec l'expérience du vécu, de dire « Attends, il faut qu'on construise, d'avoir des frontières, d'apprendre tranquillement à reconstruire une confiance. Est-ce que je peux te faire confiance? Je ne veux pas juste me mettre dans une situation pour être abusé. » Mais de développer des relations interpersonnelles, parce que ce n'est pas bon d'être seul. Peut-être te joindre à un petit groupe. Il y a plein de petits groupes ici. De te joindre à un petit groupe pour ne pas être seul. Peut-être de faire un appel. Envoyer un texto, d'envoyer un courriel, faire une tentative. De dire, je ressens ma solitude, je vais essayer de faire quelque chose. Alors que j'étais pasteur il y a plusieurs années, on avait une rencontre de diacres et d'anciens dans l'église juste avant la période de Noël. Et là, on était à préférer l'horaire de Noël. Et pour être honnête, le pasteur habituellement, là, le 26 décembre, là, il a assez hâte de prendre ses vacances. Pas ici, là. Ici, c'est des pasteurs qui sont là tout le temps. Là. Mais moi, tout ce que je voyais, là, c'est « On peut-tu finir avec Noël, qu'on peut se reposer après? » Parce qu'on est brûlé, fatigué. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait après? On fait rien après. On ferme l'église, on barricade ça, cette affaire-là. On va être tranquille. Et autour de la table, j'ai une personne qui est célibataire, qui est seule, qui n'a pas de famille. Elle lève la main et elle me dit, « Daniel, elle dit, c'est parce que je comprends, là, vous avez toutes vos familles, hein, mais moi, je suis tout seul. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu proposes? » Elle dit, « Laisse-moi m'arranger. Là. Mais je vais juste ouvrir, je vais organiser une rencontre, puis je vais ouvrir la bâtisse. Je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, on va voir qu'est-ce qui va émerger. Je vais en parler, puis on annonce-les, puis on va voir. » Et à ma honte, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui se sont présentées pour cette soirée-là. À ma honte. Pas avoir réalisé combien il y avait de gens qui souffraient de solitude. Tu n'avais pas besoin d'être célibataire pour y aller. Tu avais juste besoin de te sentir seul pour y aller. Il y avait plein de gens qui y allaient. Tu vois ce que j'ai apprécié d'elle, malgré ses douleurs et malgré toutes ses blessures, tout ce qu'elle avait vécu. Elle a dit, je vais oser. Je vais tenter quelque chose. Je vais oser. Mais si tu n'es pas seul, est-ce que je peux t'inviter à prier? À prier de dire, Seigneur, y a-t-il quelqu'un dans mon entourage qui est seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je ne remarque même pas, mais la personne est seule? Y a-t-il quelqu'un dans ma famille qui est seul? Y a-t-il un parent qui est seul? Y a-t-il un enfant qui est seul? Y a-t-il une mère monoparentale qui est seule? Y a-t-il quelqu'un qui a vécu une année difficile et qui est seul? C'est Seigneur, mets-nous à cœur quelqu'un qu'on peut s'ouvrir nos yeux et dire, « As-tu des personnes qui souffrent de solitude autour de moi? » Vous savez, je ne sais pas comment ce que c'est chez vous à Noël, mais chez nous, rajouter une assiette, ça ne changera pas grand-chose. Il y en a en masse. Mais ça peut faire la différence pour une personne, par exemple. De dire, « Seigneur, parle à mon cœur. » Mais surtout de réaliser que ton plus grand besoin est comblé dans le fait que Jésus est là. Lorsque je m'approche de lui, il s'approche de moi. Peut-être es-tu ici pour la première fois, peut-être es-tu invité. Et toute cette idée de relation, de communion avec Dieu, c'est quelque chose d'étrange pour toi. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Tu vois, Jésus l'explique comme ceci. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est comme s'il tient à la porte. Tu vois, Jésus ne défonce pas la porte. Jésus ne rentre pas sans être. Non, il est poli, Jésus. Il est respectueux, Jésus. Il va cogner. Et si tu ouvres, Jésus dit qu'il va rentrer puis qu'il va, il va venir manger avec toi. Ça peut nous ressembler étrange, hein, il s'en vient manger. Mais tu vois, dans le contexte du Moyen-Orient, c'est un petit peu comme dans le contexte québécois, puis français, puis, hein, ça s'assire autour de la table. Hein, on placote, on mange, on placote. Hein, ça fait 4 heures qu'on est assis sur des chaises inconfortables. Mais on est encore là, en train de placoter. On a des beaux sofas dans le salon, mais on n'y va pas. On n'y va pas. Puis les Anglos, eux autres, nous regardent, puis ils ne sont pas bien, eux autres. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais, j'aimerais rien une anglaise. Oui, mais Daniel, on a des... pourquoi on ne va pas s'asseoir au sofa? Non, non. T'es autour de la table. T'es en train de manger. T'es en train de jaser. Tu vois, Jésus, c'est ça qu'il te dit. Laisse-moi rentrer. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va s'asseoir autour de la table. On va manger ensemble. On va apprendre à se connaître, toi et moi. Ouvre la porte ce matin. Mais si Jésus est dans ta vie, sois rassuré ce matin. Parce que Jésus est là. Jusqu'à la fin des temps, Jésus est là. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te remercie que tu es...